Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous voici donc à nouveau pour des lectures en liberté. Et ce soir, nous allons reprendre la lecture du roman de Georges Siménon, Le chien jaune. Une demi-heure plus tard, le maire arrivait. Peu après, le lieutenant de gendarmerie dont les hommes se mettaient en devoir de fouiller les maisons voisines. En trouvant Maigret attablé dans le café en compagnie du jeune agent et occupé à dévorer des toasts, le premier magistrat de la ville trembla d'indignation.
« Je vous avais prévenu, commissaire, que je vous rendais responsable mais cela n'a pas l'air de vous émouvoir. J'enverrai tout à l'heure un télégramme au ministère de l'Intérieur pour le mettre au courant et lui demander « Avez-vous vu ce qui se passe dehors ?» Les gens fuient leur maison. Un vieillard impotent hurle d'effroi parce qu'il est immobilisé au deuxième étage. On croit voir le bandit partout.
Maigret se retourna, aperçut Ernest Michou qui, tel un enfant peureux, se tenait aussi près de lui que possible, sans déplacer plus d'air qu'un fantôme.
« Vous remarquerez que c'est la police locale, c'est-à-dire de simples agents de police qui l'ont arrêté pendant que... »«
Vous tenez toujours à ce que je procède à une arrestation. »
« Que voulez-vous dire ? Prétendez-vous mettre la main sur le fuyard ?»«
Vous m'avez demandé hier une arrestation, n'importe laquelle. » Les journalistes étaient dehors, aidaient les gendarmes dans leurs recherches. Le café était à peu près vide, en désordre, car on n'avait pas encore eu le temps de faire le nettoyage. Une âcre odeur de tabac refroidi prenait à la gorge. On marchait sur les bouts de cigarettes, les crachats, la sueur et les verres brisés. Le commissaire, cependant, tirait de son portefeuille un mandat d'arrêt en blanc.
« Dites un mot, monsieur le maire, et je serais curieux de savoir qui vous arrêteriez. »«
Emma ?»« Une plume et de l'encre, s'il vous plaît. » Il fumait à petites bouffées. Il entendit le maire qui grommelait avec l'espoir d'être entendu.
« Du bluff !»
Mais il ne se démonta pas, écrivit à grands jambages écrasés selon son habitude. « Le nommé Ernest Michou, administrateur de la Société immobilière des Sables Blancs. » Ce fut plus comique que tragique. Le maire lisait à l'envers. Maigret dit «
Et voilà, puisque vous y tenez, j'arrête le docteur. »
Celui-ci les regarda tous les deux, esquissa un sourire jaune, comme un homme qui ne sait que répondre à une plaisanterie. Mais c'était Emma que le commissaire observait. Emma, qui marchait vers la caisse, et qui se retourna soudain, moins pâle qu'à l'ordinaire, sans pouvoir maîtriser un tressaillement de joie.
« Je suppose, commissaire, que vous vous rendez compte de la gravité de... »«
C'est mon métier, monsieur le maire. » »«
Et tout ce que vous trouvez à faire après ce qui vient de se passer, c'est d'arrêter un de mes amis, de mes camarades, plutôt, enfin, un des notables de Concarneau, un homme... »
Avez-vous une prison confortable ? Michou, pendant ce temps-là, ne semblait préoccupé que par la difficulté d'avaler sa salive.
À part le poste de police à la mairie, il n'y a que la gendarmerie dans la vieille ville. »
L'inspecteur Leroy venait d'entrer. Il eut la respiration coupée quand Maigret lui dit de sa voix la plus naturelle « Dites donc, vieux, vous seriez bien gentil de conduire le docteur à la gendarmerie. »
Discrètement. Inutile de lui passer les menottes.
Vous l'écrouerez tout en veillant à ce qu'il ne manque de rien.
Bon, « C'est de la folie pure !» balbutia le docteur. « Je n'y comprends rien, mais c'est inouï, c'est infâme !»«
Parbleu !» grommela Maigret. Et se tournant vers le maire, « Je ne m'oppose pas à ce qu'on continue à rechercher votre vagabond. Cela amuse la population. Peut-être est-ce utile. Mais n'attachez pas trop d'importance à sa capture. Rassurez les gens. »
Vous savez que quand on a mis la main sur lui ce matin, on l'a trouvé porteur d'un couteau à cran d'arrêt.
Ce n'est pas impossible.
Maigret commençait à s'impatienter.
Debout, il endossait son lourd pardessus à col de velours, brossait de la manche son chapeau melon.
« À tout à l'heure, monsieur le maire. Je vous tiendrai au courant.
Encore un conseil. » Qu'on ne raconte pas trop d'histoires aux journalistes. Au fond, dans tout ceci, c'est à peine s'il y a de quoi fouetter un chat. Vous venez ?
Ces derniers mots s'adressaient au jeune sergent de ville qui regardait le maire avec l'air de dire « Excusez-moi, mais je suis obligé de le suivre. »
L'inspecteur Leroy tournait autour du docteur comme un homme bien embarrassé par un fardeau encombrant.
On vit Maigret tapoter en passant la joue d'Emma, puis traverser la place, sans s'inquiéter de la curiosité des gens.
« C'est par ici ?»«
Oui.
Il faut faire le tour des bassins. Nous en avons pour une demi-heure. »
Les pêcheurs étaient moins bouleversés que la population par le drame qui se jouait autour du café de l'amiral, et une dizaine de bateaux, profitant du calme relatif, se dirigeaient à la godille vers la sortie du port, où il prendrait le vent.
L'agent de police lançait à Maigret des regards d'écolier attentif à plaire à son instituteur.
« Vous savez, monsieur le maire et le docteur jouaient aux cartes ensemble au moins deux fois par semaine. Cela a dû lui donner un coup. »
« Qu'est-ce que les gens du pays racontent ?»«
Ben, cela dépend des gens. Les petits, les ouvriers, les pêcheurs ne s'émeuvent pas trop. » Et même ils sont presque contents de ce qui arrive, parce que le docteur, M. Le Pommeret et M. Servière n'avaient pas très bonne réputation.
Bah, c'était des messieurs, évidemment. On n'osait rien dire. N'empêche qu'ils abusaient un peu quand ils débauchaient toutes les gamines des usines.
L'été, avec leurs amis de Paris, c'était pire. Ils étaient toujours à boire, à faire du bruit dans les rues, à des 2 heures du matin, comme si la ville leur appartenait. Nous avons reçu souvent des plaintes. Surtout en ce qui concerne M. Le Pommeret, qui ne pouvait pas voir un jupon sans s'emballer. C'est triste à dire.
Mais les usines ne travaillent guère. Il y a du chômage.
Alors, avec de l'argent, toutes ces filles.
Dans ce cas, qui est ému ?
Les autres, les bourgeois et les commerçants qui se frottaient au groupe du café de l'amiral. C'était comme le centre de la ville, n'est-ce pas ? Même le maire qui y venait.
L'agent était flatté de l'attention que lui prêtait Maigret.
Où sommes-nous ?
Nous venons de quitter la ville. À partir d'ici, la côte est à peu près déserte. Il n'y a que des rochers, des bois de sapins, quelques villas habitées l'été par des gens de Paris. C'est ce que nous appelons la pointe du Gabellou.
Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de fureter de ce côté ?
Quand vous nous avez dit à mon collègue et à moi de chercher un vagabond qui pourrait être le propriétaire du chien jaune, nous avons d'abord fouillé les vieux bateaux de l'arrière-port. De temps en temps, on y trouve un cheminot.
L'an dernier, un cotre a brûlé parce qu'un rôdeur avait oublié d'éteindre le feu qu'il y avait allumé pour se réchauffer.
Rien trouvé ?
Rien.
Mais c'est mon collègue qui s'est souvenu de l'ancien poste de veille du Gabelou.
Nous y arrivons. Vous voyez,
cette construction carrée en pierre de taille sur la dernière avancée de roche. Elle date de la même époque que les fortifications de la vieille ville. Tiens, venez par ici, faites attention aux ordures. Il y a très longtemps, un gardien vivait ici comme, qui dirait, un veilleur, dont la mission était de signaler les passages de bateaux. On voit très loin. On domine la place des Glénans, la seule qui donne accès à la rade. Mais il y a peut-être 50 ans que c'est désaffecté. Maigret franchit un passage dont la porte avait disparu, pénétra dans une pièce dont le sol était de terre battue. Vers le large, d'étroites meurtrières donnaient vue sur la mer. De l'autre côté, une seule fenêtre, sans carreaux, sans montant. Mais sur les murs de pierre, des inscriptions faites à la pointe du couteau. Par terre, des papiers sales, des détritus innombrables. Voilà. Pendant près de 15 ans, un homme a vécu ici tout seul, un simple d'esprit, une sorte de sauvage. Il couchait dans ce coin, indifférent au froid, l'humidité et aux tempêtes qui jetaient des paquets de mer par les meurtrières. C'était une curiosité. Les Parisiens venaient le voir l'été, lui donnaient des pièces de monnaie. Un marchand de cartes postales a eu l'idée de le photographier et de vendre ses portraits à l'entrée. L'homme a fini par mourir pendant la guerre. Personne n'a songé à nettoyer l'endroit. J'ai pensé hier que si quelqu'un se cachait dans le pays, c'était peut-être ici. Maigret s'engagea dans un étroit escalier de pierre creusé à même l'épaisseur du mur, arriva dans une guérite, ou plutôt dans une tour de granit ouverte des quatre côtés et permettant d'admirer toute la région. C'était le poste de veille. Avant l'invention des phares, on allumait un feu sur la terrasse. Donc, ce matin de bonne heure, nous sommes venus, mon collègue et moi, nous avancions sur la pointe des pieds, en bas, à la place même où dormait jadis le fou, nous avons vu un homme qui ronflait, un colosse. Et nous sommes arrivés à lui passer les menottes avant qu'il se réveille. Ils étaient redescendus dans la chambre carrée que les courants d'air rendaient glaciale. Il s'est débattu ?
Même pas ! Mon collègue lui a demandé ses papiers et il n'a pas répondu. Vous n'avez pas pu voir. À lui seul, il est plus fort que nous deux, au point que je n'ai pas lâché la crosse de mon revolver. Mais des mains ! Les vôtres sont grosses, n'est-ce pas ? Eh bien, essayez d'imaginer des mains deux fois plus grosses, avec des tatouages.
Vous avez vu ce qu'il représentait ?
Je n'ai vu qu'une encre sur la main gauche et les lettres SS des deux côtés.
Mais il y avait des dessins compliqués, peut-être un serpent.
Nous n'avons pas touché à ce qui traînait par terre, tenez.
Il y avait de tout. Des bouteilles de vin fin, d'alcool de luxe, des boîtes à conserve vides et une vingtaine de boîtes intactes. Il y avait mieux. Les cendres d'un feu qui avait été allumé au milieu de la pièce et tout près un os de gigot dénudé, des quignons de pain, quelques arêtes de poisson, une coquille Saint-Jacques et des pinces de homard.
Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalent, avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi qui étais le plus fier, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalent, avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire et Casanova n'osait pas. Et moi,
moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi sous que moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des trois faisans, on leur montrait nos culs et nos bonnes manières en leur chantant les bourgeois. C'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des trois faisans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre de Casanova. Et moi qui suis resté le plus fier, moi je parle encore de. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalent, de jeunes peignes-culs nous montrent leur derrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient...
Et donc, après cette nouvelle pause musicale, nous revenons au roman de Siménon, Le Chien Jaune.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Et le chien ? Questionna Maigret.
Justement, nous ne l'avons pas retrouvé. Il y a bien des traces de pattes sur le sol, mais nous n'avons pas vu la bête. Vous savez, le maire doit être dans tous ses états à cause du docteur. Cela m'étonnerait qu'il ne télégraphie pas à Paris, comme il l'a dit.
Votre homme était armé ?
« Non, c'est moi qui ai fouillé ses poches, pendant que mon collègue qui tenait les menottes le mettait en joue de l'autre main. Dans une poche du pantalon, il y avait des marrons grillés. 4 ou 5. Cela doit venir de la charrette qui stationne le samedi et le dimanche soir devant le cinéma. Puis quelques pièces de monnaie, pas même 10 francs, un couteau, mais pas un couteau terrible, un couteau comme ceux dont se servent les marins pour couper le pain. »
Il n'a pas prononcé un mot.
Pas un.
Au point que nous avons pensé, mon collègue et moi, qu'il était simple d'esprit comme l'ancien locataire. Il nous regardait à la façon d'un ours. Il avait une barbe de 8 jours, 2 dents cassées au beau milieu de la bouche.
Ses vêtements ?
Je ne pourrais pas vous dire. Un vieux costume, je ne sais même plus si en dessous il portait une chemise ou un tricot. Il nous a suivis docilement. Nous étions fiers de notre prise. Il aurait pu s'enfuir 10 fois avant d'arriver en ville. Mais si bien que nous étions sans méfiance, quand d'une secousse, il a cassé les chaînes de ses menottes. J'ai cru que mon poignet droit était arraché. Je porte encore la marque.
À propos du docteur Michou,
eh bien,
vous savez que sa mère doit venir aujourd'hui ou demain. C'est la veuve d'un député. On dit qu'elle a le bras long. Et elle est l'amie de la femme du maire.
Maigret regarda l'océan gris à travers les meurtrières. Des petits bateaux à voile se faufilaient entre la pointe du Gabelou et un écueil que le Ressac laissait deviner. Viraient de bord et allaient mouiller leurs filets à moins 1 mille.
Vous croyez vraiment que c'est le docteur qui...
Partons, dit le commissaire. La marée montait. Quand ils sortirent, l'eau commençait à lécher la plateforme. Un gamin à 100 mètres d'eux sautait de roche en roche à la recherche des casiers qu'il avait placés dans les creux. Le jeune agent ne se résignait pas au silence.
« Le plus extraordinaire, c'est qu'on se soit attaqué à M. Mostaguen, qui est le meilleur homme de Concarneau, au point qu'on voulait en faire un conseiller général. Il paraît qu'il est sauvé, mais que la balle n'a pas pu être extraite, si bien que toute sa vie, il gardera un morceau de plomb dans le ventre. Quand on pense
que sans cette idée d'allumer son cigare. Ils ne contournèrent pas les bassins, mais traversèrent une partie du port, dans le bac qui fait la navette entre le passage et la vieille ville. À peu de distance de l'endroit où, la veille, des jeunes gens assaillaient le chien jaune à coups de pierre, Maigret avisa un mur, une porte monumentale surmontée d'un drapeau et des mots « Gendarmerie nationale ». Il traversa la cour d'un immeuble datant de Colbert. Dans un bureau, l'inspecteur Leroy discutait avec un brigadier. « Le docteur ?» questionna Maigret. « Justement, le brigadier ne voulait rien entendre pour ce qui est de laisser venir les repas du dehors. » « Ou alors c'est sous votre responsabilité, » dit le brigadier à Maigret, « et je vous demanderai une pièce qui me serve de décharge. » La cour était calme comme un cloître. Une fontaine coulait avec un adorable glouglou. « Où est-il ? » ? « Là-bas, à droite, vous poussez la porte. C'est ensuite la deuxième porte dans le couloir. Voulez-vous que j'aille vous l'ouvrir ?» Le maire a téléphoné pour recommander de traiter le prisonnier avec les plus grands égards. Maigret se gratta le menton. L'inspecteur Leroy et l'agent de police, qui étaient presque du même âge, le regardaient avec une pareille curiosité timide. Quelques instants plus tard, le commissaire entrait seul dans un cachot au mur blanchi à la chaux, qui n'était pas plus triste qu'une chambre de caserne. Michou, assis devant une petite table en bois blanc, se leva à son arrivée, hésita un instant, commença en regardant ailleurs. « Je suppose, commissaire, que vous m'avez joué cette comédie pour éviter un nouveau drame, en me mettant à l'abri des coups de... » Maigret remarqua qu'on ne lui avait retiré ni ses bretelles, ni son foulard, ni ses lacets, comme c'est la règle. De la pointe du pied, il attira une chaise à lui, s'assit, bourra une pipe et grommela, bonhomme. « Parbleu, mais asseyez-vous donc, docteur. » « Êtes-vous superstitieux, commissaire ?» Maigret, à cheval sur sa chaise, les coudes sur le dossier, esquissa une moue qui pouvait signifier tout ce qu'on voulait. Le docteur ne s'était pas assis. Je crois qu'au fond, nous le sommes tous à un moment donné, ou, si vous préférez, au moment où nous sommes visés. » Il toussa dans son mouchoir, qu'il regarda avec inquiétude, et poursuivit. « Il y a 8 jours, je vous aurais répondu que je ne croyais pas aux oracles. Et pourtant, il y a peut-être 5 ans de cela, nous étions quelques amis à dîner chez une comédienne de Paris. Au café, quelqu'un proposa de tirer les cartes. Or, savez-vous ce qu'il m'a annoncé ? Remarquez que j'ai ri. J'ai ri d'autant plus que cela tranchait avec le refrain habituel. Dame blonde, monsieur âgé qui vous veut du bien, l'être qui vient de loin, etc., etc. À moi, on a dit « Vous aurez une vilaine mort. Une mort violente. » « Méfiez-vous des chiens jaunes. » Ernest Michou n'avait pas encore regardé le commissaire, sur qui il posa un instant son regard. Maigret était placide. Il était même, énorme sur sa petite chaise, une statue de la placidité. « Ceci ne vous étonne pas ? Des années durant, je n'ai jamais entendu parler de chien jaune. Vendredi, un drame éclate, un de mes amis en est la victime. J'aurais pu tout aussi bien que lui me réfugier sur ce seuil et être atteint par la balle. Et voilà qu'un chien jaune surgit. Un autre ami disparaît dans des circonstances inouïes. Et le chien jaune continue de rôder. Hier, c'est le tour de Le Pommeray, le chien jaune, et vous voudriez que je ne sois pas impressionné ? Il n'en avait jamais dit autant d'une haleine, et à mesure qu'il parlait, il reprenait consistance.
pour tout encouragement, le commissaire soupira. « Évidemment, évidemment. »
« N'est-ce pas troublant ? Je me rends compte que j'ai dû vous faire l'effet d'un lâche. »«
Eh bien oui, j'ai eu peur. »
Une peur vague qui m'a pris à la gorge dès le premier drame et surtout quand il a été question de chien jaune.
Il arpentait la cellule à petits pas en regardant par terre. Son visage s'animait.
J'ai failli vous demander votre protection, mais j'ai craint de vous voir sourire. Et j'ai craint davantage encore votre mépris.
Car les hommes forts méprisent les lâches.
Sa voix devenait pointue. Et je l'avoue, commissaire, je suis un lâche. Voilà 4 jours que j'ai peur, 4 jours que je souffre de la peur. Ce n'est pas ma faute. J'ai fait assez de médecine pour me rendre un compte exact de mon cas. Quand je suis né, il a fallu me mettre dans une couveuse artificielle. Pendant mon enfance, j'ai collectionné toutes les maladies infantiles. Et lorsque la guerre a éclaté, des médecins qui examinaient 500 hommes par jour m'ont déclaré bon pour le service et envoyé au front. Or, non seulement j'avais de la faiblesse pulmonaire avec cicatrices d'anciennes lésions, mais 2 ans plus tôt, on m'avait enlevé un rein.
J'ai eu peur.
Peur à en devenir fou. Des infirmiers m'ont relevé alors que je venais d'être enterré dans un entonnoir par la déflagration d'un obus. Et enfin, on s'est aperçu que je n'étais pas apte au service armé.
Ce que je vous raconte n'est peut-être pas joli, mais je vous ai observé. J'ai l'impression que vous êtes capable de comprendre. C'est facile, le mépris des forts pour les lâches. Encore devrait-on s'inquiéter de connaître les causes profondes de la lâcheté.
Tenez, j'ai compris que vous regardiez sans sympathie notre groupe au café de l'amiral. On vous a dit que je m'occupais de ventes de terrain, fils d'un ancien député, docteur en médecine, et des soirées autour d'une table de café avec d'autres ratés.
Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire ?
Mes parents dépensaient beaucoup d'argent, et néanmoins ils n'étaient pas riches.
Ce n'est pas rare à Paris. J'ai été élevé dans le luxe, les grandes villes d'eau.
Puis mon père meurt et ma mère commence à boursicoter, à intriguer, toujours aussi grande dame qu'avant, toujours aussi orgueilleuse, mais harcelée par les créanciers.
Voilà 3 jours que vous m'observez et que j'ai envie de vous parler à cœur ouvert. J'ai été marié.
Ma femme a demandé le divorce parce qu'elle voulait un homme animé par de plus hautes ambitions.
Un rein en moins. 3 ou 4 jours par semaine à me traîner, malade, fatigué, de mon lit à un fauteuil.
Il s'assit avec lassitude. Emma a dû vous dire que j'ai été son amant.
Bêtement, n'est-ce pas ? Parce qu'on a parfois besoin d'une femme. On n'explique pas ces choses-là à tout le monde.
Au café l'amiral, j'aurais peut-être fini par devenir fou.
Le chien jaune, servière disparue, les taches de sang dans sa voiture, et surtout cette mort ignoble de Le Pommeret.
Voilà, nous avons terminé ce soir les lectures en liberté, et nous nous retrouverons la semaine prochaine. Vous pouvez écouter ces lectures en podcast sur Bretagne 5. Cette émission a été enregistrée par Frédéric Guyon. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.